Ok, donc on commence cours d'histoire, c'est le cinquième cours. Donc, je répète, hein, c'est histoire de l'Église de l'Institut biblique Baptiste Libre de Limay qui est la base des cours. Et j'ajoute les choses qui me semblent utiles ou intéressantes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler... C'est un peu un résumé des premières 300 années du christianisme et ce qui s'est passé pour éloigner le christianisme de la Bible. OK? Donc, la première chose, c'est cet renforcement de l'organisation. Alors, je vérifie que... C'est un peu, oui, c'est un peu le déformation et tout ça, mais on va voir petit à petit. Donc, à cause des problèmes externes et internes de l'Église, l'évêque est devenu de plus en plus puissant. Alors, vous allez vous souvenir que l'évêque, c'était le pasteur. Mais le mot biblique, c'est évêque. Et le mot qu'on utilise aujourd'hui, c'est pasteur. Mais avec l'utilisation du mot, l'évêque est devenu plus en plus haut et le pasteur plus en plus bas. Donc, ils ont fait une distinction entre les deux choses. Au deuxième siècle, ils commençaient déjà à enseigner la succession apostolique. L'évêque de Rome est devenu, pour plusieurs raisons, l'évêque le plus important. Donc, par exemple, Rome est devenue, donc l'Église de Rome est devenue l'Église la plus puissante et la plus riche. Bon, évidemment, c'était la capitale de l'Empire romain, donc cette Église-là, les citoyennes qui étaient romaines avaient plus d'argent que les gens dans les campagnes et tout ça. Aussi, c'était l'Église, comme j'ai dit, de la capitale de l'Empire. Et puis, Pierre et Paul sont tous les deux morts à Rome. Et puis, au début du christianisme, le centre était Jérusalem, et vous allez vous souvenir que l'année 70, Jérusalem était détruite. Donc, Rome était devenue un peu naturellement l'église le plus important. Il y avait d'autres églises, on va les mentionner tout à l'heure. Selon l'auteur Latourette, il y a trois motifs qui ont développé l'Église catholique. Premièrement, il y avait un désir d'unifier tous les chrétiens dans une communion. Donc on voit ça même aujourd'hui, ce désir que tous les chrétiens doivent être physiquement unis dans le christianisme, on appelle ça l'œcuménisme, mais c'était là depuis longtemps. Second, le désir de transmettre un évangile pur. Mais nous aussi, nous voulons transmettre un évangile pur. Et au début, c'était une partie de ce qu'ils voulaient faire. Aussi, ils voulaient rendre visible le corps de Christ. Et c'est un peu ça qui fait chaque église locale. On rend visible le corps de Christ, mais pas vraiment dans le sens réel. On ne peut pas. Le corps de Christ est un corps spirituel dans les lieux célestes. Et il y a les manifestations locales de ce corps dans tous les lieux quand les chrétiens se réunissent. Mais on est bien, bien infirme, bien imparfait ici-bas. OK? Donc ça, c'est les motifs qui ont poussé le développement de l'Église catholique romaine. Donc il y a tout un tas de choses qui ont eu lieu. Certaines très tôt dans le christianisme et d'autres un peu plus avancées dans l'histoire. Donc... On va parler déjà de l'année 107. On a un des pères de l'Église qui s'appelle Ignace. Alors, Ignace était né l'année 50, ou l'année 50, donc c'est que 17 années ou même 20 années après la mort de Christ. Donc, c'est pas très loin dans l'histoire, n'est-ce pas? Et il est mort l'année 107. Donc, on nous dit dans les anciens livres que cet homme, Ignace, était un disciple de l'apôtre Jean. Donc, c'est tout près des disciples. Alors, Ignace enseignait, l'évêque a la prééminence sur les anciennes. Donc, pour Ignace, il n'y avait pas les anciennes, il y avait un évêque et les anciennes. Donc, déjà une nivellisation dans la hiérarchie, une première nivellisation dans la hiérarchie de l'Église. Il mentionne l'Église catholique, donc dans le sens catholique voulant dire universelle, comme étant composée de toutes les églises hiérarchiques et non pas de tous les chrétiens. Donc il voit que si une église n'a pas cette distinction de évêque et puis ancienne, que c'est que des chrétiens, donc une fraternité, que c'est pas, il ne le reconnaît pas comme église. Ignace enseignait un salut par les œuvres. Déjà un disciple de Jean, et lui enseigne un salut par les œuvres, surtout par le martyr. Tous ceux qui sont en dehors de l'église hiérarchique, donc les églises avec l'évêque et les anciennes et puis les gens, sont des hérétiques. S'il n'y a pas la hiérarchie, c'est une hérésie, dit-il. Pour lui, la hiérarchie, c'est l'évêque devient le pasteur unique de l'église locale ou la tête de plusieurs paroisses qui forment un diocèse. Donc vous allez vous souvenir que dans le premier siècle, il y avait beaucoup de petites églises qui se réunissaient plutôt dans les maisons. Donc chaque maison avait un pasteur. Et donc en Éphèse, quand Paul appelle les anciennes de l'église venir le voir là où il était sur le bateau, eh bien ça veut dire que toutes ces petites églises, donc chacun avec leur ancien, avec leur pasteur, tous les pasteurs étaient convoqués à Paul. Et Paul a parlé à ce groupe de pasteurs, parce que c'était des petites églises avec un pasteur au-dessus de chaque groupe. Mais maintenant, on voudrait qu'il y ait un pasteur au-dessus de tous ces pasteurs-là. Donc il y a un diocèse là, il y a un diocèse là, une paroisse et tout ça. Les anciennes ou les presbytériens deviennent des prêtres. Et puis il y a les diacres et puis il y a le peuple. Ça c'est une hiérarchie, donc les évêques, les anciens, les diacres et puis le peuple. Quatre niveaux. Pour Ignace, il y a les sacrements, le baptême et la scène qui deviennent pour lui porteurs de la grâce. Donc pour nous, le baptême et la scène sont les mémorials de notre Seigneur, de sa mort et sa résurrection. Mais pour eux, ça devient quelque chose qui communique une grâce. Pour Ignace, le baptême devient nécessaire pour le salut, le baptême et la régénération. Et dans la scène, il dit, le pain ne reste pas du pain et le vin ne reste pas du vin. Ça se transforme à devenir quelque chose d'autre. Mais ça, c'est très tôt dans le christianisme que ces idées ont eu naissance. On aurait pensé que c'était plus tard. Mais c'est très tôt. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais c'est quelqu'un qui a inventé ces pensées-là. Les sacrificateurs, donc les sacrements, ne sont légitimes que s'ils sont administrés par un évêque d'une église hiérarchique ou par quelqu'un formé par un évêque d'une église hiérarchique. Donc, c'est la personne qui valide les sacrements, entre guillemets les sacrements, c'est eux qui disent les sacrements, pour nous on dit les ordonnances. Ordonnances voulant dire quelque chose que Jésus a ordonné à faire, et sacrements voulant dire quelque chose qui rend sacré, ou qui est sacré et qui communique une grâce. Donc, on a déjà parlé de Montanus qui prêchait contre cette autre, il était dans cette église séparée de l'église hiérarchique, et donc il prêchait contre l'église hiérarchique. Donc déjà, dans le second semestre, second siècle, il y avait une grande distinction, une division dans les églises. Dans l'année 236 à 250, il y avait un évêque de Rome qui s'appelle Fabien. Il a divisé la ville de Rome en 7 diocèses. Diaconies. En 251, les églises fidèles à la Bible refusent la communion fraternelle avec les églises hiérarchiques. Il y avait donc une séparation vis-à-vis de la collaboration. Ça, c'est déjà, on a parlé d'une séparation dans l'année 150. Maintenant, 100 ans plus tard, il y a encore plus de séparation. L'année 308-309, un autre évêque de Rome qui s'appelle Marcel, il divise la ville en 25 paroisses. Donc, on est en train de, en fait, créer une plus grande hiérarchie pour régler ce qui se passe dans la ville de Rome. En 312, il y a la victoire de Constantin sur Maxence. Et donc, Constantin dit qu'il se convertisse à Jésus. 313, il y a l'édit de Milan, donc la liberté religieuse est donnée à tout le monde. 314, le christianisme, c'est-à-dire les églises hiérarchiques, est déclaré religion impériale ou religion d'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus de paganisme, mais l'église est assimilée et puis ça sera quelques années plus tard que le paganisme sera interdit. Mais pour l'instant, le gouvernement de Rome est à la fois païen et aussi chrétien. Alors, Constantin a renoncé à son titre de Pontifex Maximus. Alors, aujourd'hui, on connaît qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pontifex Maximus. Qui est-ce?
C'est le pape. Hein?
C'est le pape. Donc, avant, c'était l'empereur de Rome qui portait ce titre. C'était un titre que César a hérité du roi de Pergame, qui est mort sans héritier direct. Donc, pontife Maximus veut dire le grand pontife, un ponte, c'est un ponte. Donc, c'est le sacrifice, c'est le prêtre entre Dieu et les hommes. C'était, en principe, c'était ce roi de Pergame, après c'était César lui-même. Mais quand Constantin a dit qu'il est devenu chrétien, donc il ne pouvait plus être le grand prêtre païen. Donc, il a mis le titre de côté. Et selon les notes ici, c'est Sylvestre, un autre évêque de Rome, qui accepte le titre Pontifex Maximus. Donc, il se considère le grand prêtre. Bon, nous savons que dans le christianisme, il n'y a pas de prêtre que Jésus. 314-315, il y a un groupe qui s'appelle Léoniste. Donc, Léon était un autre évêque à Rome, parce qu'il n'y avait pas un seul évêque, il y avait plusieurs évêques, mais il a hiérarchie tout ça. Et ils sont persécutés et retirent au Piédmont, parmi les Gaulois. Donc là, on va parler de Rome, même. L'évêque de Rome était devenu le pilier de l'Église à Rome afin de donner une unité. Il est devenu le dispensateur de la vérité et de la grâce. La scène est devenue un sacrifice et à l'année 300, le baptême n'est donné qu'à la Pâque et à la Pentecôte. Il y a, dans le deuxième siècle, une succession apostolique. Le pasteur est considéré comme un apôtre. Le pasteur, qui devient évêque des églises locales, est appelé père papa ou pope. Alors on dit le pape en français, mais en territoire orthodoxe, on appelle toujours le pope. Donc en je sais plus quel niveau. Je pense que c'est tous les pasteurs dans l'Église orthodoxe sont les popes. Tandis qu'en Occident, sous le régime de la catholique romaine, c'est que le pape qui porte encore ce nom. Mais à cette époque-là, dans le 2e, 3e siècle, tous les pasteurs étaient appelés pères, tous les pasteurs étaient appelés papes. Donc c'est un cheminement que l'évêque de Rome, à travers plusieurs siècles, va restreindre l'utilisation de ce mot à lui-même seul. Donc, c'est que le premier vrai pape sera Grégoire le Premier, aux environs de l'année 600. Alors, il y a 5 villes qu'on appelle les villes patriarches. Donc, ce sont Jérusalem, Constantinople, Rome, Alexandrie et Carthage. Ce sont des grandes villes chrétiennes. D'accord? Et parmi ces 5, l'évêque de Rome est considéré le plus important. Parce que c'est la capitale du monde. Alors, vous allez vous souvenir que dans peu de temps, il y aura l'islam. Et l'islam va se propager. Et donc, Jérusalem, Carthage, Alexandrie vont disparaître comme centre chrétien. Donc, ça ne laissera que Rome et Constantinople, les deux, ce qui deviennent donc les deux centres de Rome, de l'Empire romain. Constantinople était construit par Constantin, donner son propre nom, pour créer un nouveau centre administratif de l'Empire romain, et donc toute l'administration de Rome est allée à Constantinople. Et c'est autour de Constantinople qui se développe l'Église orthodoxe. Tandis que à Rome, il y a un gérant qui reste sur place, qui n'est pas très puissant, et au fur et à mesure, ça va disparaître, et la personne le plus puissant à Rome va devenir l'évêque de Rome, qui va être appelé plus tard le pape. Et c'est pour cela que c'est devenu tellement important dans l'Occident. Parce qu'avec quand le temps devient de plus en plus difficile et il n'y a plus les moyens économiques pour maintenir une bonne relation entre Constantinople et Rome et tout ça, il y a des invasions barbares, il y a tous ces problèmes. Donc, tôt et tard, dans l'Occident, dans l'Europe que nous connaissons, Rome va disparaître. L'Empire romain va disparaître, ce qui sera remplacé par le Moyen-Âge. Okay? Mais la stabilité de tout ça, c'est l'évêque de Rome. Parce qu'il est devenu le remplaçant politique dans la ville. Et puis encore plus tard, il y aura Constantinople même qui sera envahi par les Turcs. Et donc, il n'y aura plus qu'une seule ville historique pour le christianisme, c'est Rome. Alors dans cette époque-là, l'Église, je vous ai déjà dit ça je crois, l'Église n'était plus faite du peuple mais des évêques. Là où il y a l'évêque, il y a l'Église. Là, il n'y a pas l'évêque, il n'y a pas l'Église. Okay. Troisième, quatrième point. Il faut que je le cherche. C'est là. OK. En l'an 300, donc j'ai déjà mentionné les 5 villes, les 5 évêques des églises hiérarchiques étaient estimés par les autres évêques. Donc, j'ai dit patriarche de Jérusalem, Constantinople, Rome, Alexandrie et Carthage. Donc c'est l'évêque. Donc dans cette hiérarchie, l'évêque qui est au-dessus de ces grandes villes-là, parce que c'est des grandes villes, ils sont bien vus par les autres pasteurs, et etc. à travers l'Empire. parce qu'ils ont plus d'éducation, plus de l'argent, plus de puissance et toutes ces choses-là. Les trois villes les plus fortes étaient Rome, Alexandrie et Carthage. Et ces trois villes, ces trois évêques acceptaient la doctrine que de la succession des évêques de Christ à travers les apôtres. Donc, Christ a donné la vérité aux évêques. Et les évêques ont donné la vérité aux évêques qui ont donné la vérité aux évêques et ainsi de suite. Ce qui n'est pas vrai. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Christ a donné la vérité aux apôtres et le Saint-Esprit leur a rappelé la vérité qui était enregistrée dans la parole de Dieu. Et fin de succession apostolique. Le livre, la parole de Dieu et la succession apostolique, c'est la doctrine des apôtres. Mais c'est pas ça que eux y croyaient. Donc ils croyaient déjà qu'il y a cette succession des évêques de Christ au travers des apôtres. Après, ils croyaient, tous ces trois grands évêques, croyaient que l'évêque était le plus important parmi les anciens. Donc évidemment, ils voulaient être plus importants que les autres qui étaient plus bas que eux. Et que l'évêque de Rome était le plus important parmi les évêques. Donc, eux, les patriarches de ces grandes villes, donnaient cette puissance à l'évêque de Rome. Il n'est pas encore appelé le pape. Il n'y a pas le pape, il y a les papes à cette époque-là. Mais il donne ce pouvoir. Il est le plus puissant parmi nous. Mais nous sommes puissants quand même. En l'an 300, l'évêque était le pasteur de plusieurs communautés dans sa ville, mais n'avait aucune autorité sur les églises d'une ville voisine. Donc, même si l'évêque de Rome était le plus important parmi tous les évêques du christianisme, il n'avait pas de puissance sur un autre évêque dans une autre ville. C'était seulement lui sur sa propre ville. C'était pas sur le christianisme entier. Ça va, vous comprenez? Alors là, on va lire à propos de la corruption dans l'Église hiérarchique. On a parlé, je pense que c'était la dernière fois ou avant la dernière fois, de cette école d'Alexandrie où on a commencé à assimiler le christianisme, le paganisme et les choses comme ça. Donc on voit un petit peu ça déjà ici. Le paganisme continue à s'infiltrer dans les églises. Les fétiches. Les chrétiens étaient accusés d'athéisme parce qu'ils n'avaient ni idole ni fétiche. Et dans ces églises hiérarchiques, on commençait à ajouter les ossements des saints et à faire des signes de la croix. Pour eux, la vraie religion était jugée d'après la participation au rite et la possession des fétiches. Mais d'où viennent ces ossements? C'est les martyrs.
C'est qui tout ça?
Où est-ce qu'ils ont eu ces idées-là? Quelqu'un a commencé à dire, il a dû être un vrai saint du fait qu'il est mort pour Jésus. Et donc, ils ont dit, on va garder quelque chose qui lui appartenait. Et puis, après, c'était les os et les choses. Je ne sais pas qui, de personne qui a commencé ça. Mais ça a commencé quelque part. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les églises catholiques, chaque autel a un objet considéré saint, que ça soit un ossement ou une épine de la couronne de Christ ou un morceau de tissu de sa robe ou le os d'un un saint ou quelque chose. Donc si vous allez dans une église catholique comme Notre-Dame de Paris, il y a plusieurs autels, et bien chaque autel a les reliques, les objets des personnes saintes ou des... Oui. Quelqu'un a dit une fois, si on ajoutait tous les morceaux de croix qui sont dans les églises catholiques, on pourrait reconstruire l'arche de Noé. Parce que c'était un commerce. Hein? C'était un commerce. Les sacrements, le baptême et la scène commencent à avoir une grâce qui sauve. Ça, c'est la matérialisation de la foi. La foi qui est intérieure devient quelque chose extérieur, physique. Justin Martyr, on a parlé de lui, croyait que le baptême terminait le salut. Irène disait que le baptême est la nouvelle naissance qui nous régénère. Le pain et le vin sont devenus le médicament de l'immortalité, selon Irénée. Et pourtant, Irénée était un des meilleurs des pères de l'Église à l'époque des apologistes. Il est mort martyr même. Hein? Et pourtant, dans la spiritualisation des principes, on commence à dire tout un tas de choses. C'est un peu le problème quand le christianisme devient intellectuel. On commence à créer des idées qui ne sont plus conformes à ce que Dieu voulait communiquer. Donc, il y a la matérialisation, il y a la cléricalisation, le sacerdoce. Les Juifs et les païens avaient des prêtres. L'idée était développée que seuls les évêques ou ceux qui étaient formés par les évêques pouvaient administrer les sacrements. Le salut était identifié avec le baptême et la scène, et ceci n'était efficace que sous la direction de l'évêque. Donc, pour nous, c'est souvent le pasteur qui fait le baptême. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit ça. D'ailleurs, Paul dit qu'il ne faisait pas beaucoup de baptême. Et Jésus n'a fait que très peu de baptême. Donc, c'est pas important qui fait le baptême. Le fait, c'est que l'individu déclare sa foi par le baptême. Mais on fait des manipulations et on veut que ça soit le pasteur, que ça soit quelqu'un d'important qui fait le baptême. Et donc, on commence à cléricaliser, à rendre les clérics, les pasteurs, plus importants qu'ils ne sont pas vraiment. Les déesses. Chaque religion païenne avait une déesse, même les gnostiques. Alors, ces églises hiérarchiques ont commencé à magnifier Marie jusqu'à ce qu'elle soit devenue un objet d'adoration. Alors, on ne donne pas la date, mais c'est au fur et à mesure. Et on voit le résultat aujourd'hui. Et puis, le professionnalisme. Prenant exemple sur les religions païennes, les évêques commencèrent à former un groupe d'élite qui administrait la religion aux mortels. Clergé signifie ceux qui sont appelés de Dieu. Et laïc signifie le peuple. Donc, quand on parle de clergé, on peut, dans cet côté nicolaïte, il y a les gens qui sont consacrés à un ministère spécial, tandis que le peuple n'a rien à voir avec ça. OK? Donc, on sépare entre ceux qui sont appelés de Dieu à servir dans l'Église et ceux qui ne sont pas appelés de Dieu pour servir dans l'Église. Et après, quand on réfléchit, donc après, le peuple n'a rien à faire et les appelés ont tout à faire. Mais ça, c'est pas biblique. Dans la Bible, le travail de ceux qui sont appelés, le clergé, est de préparer le peuple à faire le ministère. Donc, créer une situation où le clergé perd son travail et le peuple devient, eux, tous le clergé. Et puis, il y avait aussi une baisse de moralité parmi les chrétiens dans ces époques-là. Je saute à droite et à gauche ce soir. Alors, on parle ici des raisons pour la corruption dans ces églises hiérarchiques. Premièrement, il y a la croissance énorme et rapide de la chrétienté. Donc, on a la faillite des religions païennes, l'efficacité du message chrétien, le zèle des chrétiens, et un grand nombre de païens sont devenus chrétiens sans naître de nouveau. Parce que c'était un peu, ça devenait un peu à la mode. Et ça dépend exactement à quel moment dans l'histoire on parle, mais quand on parle au moment de Constantin, Constantin donnait les droits et des ressources à l'Église qui étaient intéressants pour les non-croyants. Et donc, il y a les païens qui deviennent chrétiens pour pouvoir travailler. Donc, ça fait partie de cette croissance énorme. Mais c'est pas tous de la même époque, c'est à travers les trois siècles qu'on parle là. Seconde raison, c'est les persécutions. La persécution a divisé les chrétiens en cinq groupes. Il y a premièrement les martyrs. Les martyrs ne sont pas tous morts, mais c'est le témoignage. Et la plupart des martyrs sont morts. D'autres martyrs ont été, torturés, abîmés, aveuglés, tout ça. Donc ils sont martyrs, mais ils ne sont peut-être pas morts. Mais beaucoup de martyrs sont morts. Donc, je répète, la persécution a divisé les chrétiens en cinq groupes. Les martyrs. Second, les confesseurs. Ceux qui ont confessé Christ, qui furent torturés, mais pas tués. Donc là, c'est la même chose que je viens de dire. Les apostats. Ils ont renié Christ et ont offert un sacrifice sur l'autel de l'empereur. Donc, sous la persécution, ils n'ont pas résisté, donc ils ont cédé. Les falsificateurs qui ont reçu illégalement des certificats de l'Empire sans renier Christ. Donc ils ne voulaient pas renier Christ, donc ils ont peut-être payé quelqu'un à remplir un papier qui disait qu'ils avaient renié Christ, bien qu'ils n'ont pas fait, par exemple. Et les infidèles, ceux qui ont rendu les Écritures saintes. Donc ce sont cinq groupes de chrétiens à cette époque-là. Et puis les conflits internes. Raison pour la corruption dans les églises hiérarchiques, donc c'est la croissance rapide, c'est les persécutions et les conflits à l'intérieur des églises. Donc l'influence, comme on a parlé, de l'école d'Alexandrie, qui commençait à propager l'interprétation allégorique et tout ça, et d'assimiler le christianisme avec le paganisme. Et puis l'influence des enseignements d'Ignace, d'Irénée, de Cyprien, etc., ces grands pasteurs de l'époque, on a parlé de ces hommes, leurs écrits, et ils ont des petites déviations, mais ces déviations qui sont dans la bouche des hommes très importants. Donc ça influence beaucoup de chrétiens. Et puis il y avait aussi des rivalités parmi les ecclésiastiques, donc chacun voulant être considéré comme le plus important. Et donc on a toutes les églises, et bibliquement toutes les églises sont égales. Mais parmi toutes les églises, nous on aurait dit, bon, l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche sont les plus importants. Mais de l'époque là, bon, Antioche était vrai que c'était important, mais c'était pas aussi important que les grandes villes, comme j'ai déjà mentionné, les patriarches de Jérusalem, de Rome, de Constantinople, de Carthage et d'Alexandrie. Donc eux, ils ont eu cette grande puissance et cette rivalité dans les églises, qui est le plus important. Et là, ça ne nous rappelle pas de quelque chose qui est arrivé avec les apôtres, les disciples de Jésus. Les deux frères qui sont venus demander s'ils ne pouvaient pas être à droite et à gauche de Jésus. Et cette rivalité qui était déjà là, parce qu'ils sont les êtres humains quand même. Hein? Donc ça, c'est le même genre de choses. Maintenant, on va voir la formation des églises hiérarchiques. Donc on peut dire les Nicolaïtes, si vous voulez. En 312, on a la vision de Constantin. Il y a une bataille et une victoire sur l'autre empereur. Il y avait deux empereurs, l'autre étant Maxence. Et Constantin dit qu'il a eu une vision de, je ne sais plus exactement, de voir une croix et dans ce signe conquérir, quelque chose comme ça. Et donc, il s'est converti au christianisme. S'il allait gagner, il allait se convertir au christianisme. C'était quelque chose comme ça. Et donc, il a tenu parole. Puis, 313, on a déjà parlé de ça, l'édit de Milan, liberté religieuse pour tous. Et 314, le christianisme est déclaré religion impériale ou religion d'État. Est-ce que je veux lire ça? Pourquoi pas? Donc, un des évêques à Rome, Sylvestre, il se veut le chef des églises de Rome. C'est donc entre l'ascension de Sylvestre à son pontificat, entre guillemets, son pontificat, et sa mort en 325, que se place la scission ou la séparation entre les léonistes et les sylvestristes. Donc, les léonistes sont allés, vous vous souvenez, sont partis pour Piedmont. Et les sylvestristes, ou tout simplement entre les policiens, donc les futurs policiens, et les futurs catholiques. Ceux qui ont suivi Sylvestre dans l'église hiérarchique. Et j'avais encore une chose qu'on pourrait voir dans tout cet domaine. Si je peux me retrouver, même peut-être deux choses. Ça va? C'est beaucoup d'informations,
c'est,
hein?
C'est beaucoup, oui.
Ouais, je vous fatigue.
Non, c'est pas. Mais ça fait beaucoup de choses.
Bon, on va arrêter là. Parce que ça fait beaucoup de choses.
Oui, non, mais.
Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup de choses.
Par contre, j'aimerais bien avoir un.
De réentendre, d'accord. Ok. Ce que je vais vous donner, ce sont des photocopies. J'ai demandé permission de faire des copies de ces pages. Donc, qu'est-ce que le christianisme, qu'est-ce que le protestantisme et des notes historiques, la réformation appelée aussi la réforme. Donc, c'est des deux livres différents. Et je vous donne ça, vous pouvez le garder. Mais là, on a parlé, aujourd'hui, on a parlé des formations de catholicisme, dans le sens le plus large. Catholique romaine, catholique, voulant dire universel. Tous les chrétiens étaient censés croire la même chose. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment envie de lire cette chose-là, peut-être que je vais le faire. Mais au fur et à mesure, donc, le catholicisme se développe au fur et à mesure. Et deviennent, en premier, c'était le catholicisme, donc universel, orthodoxe. Et donc, il y a toute cette pensée, pour presque 1000 ans, dans les églises hiérarchiques, donc dans les églises officielles de l'État romain, qui restent plus ou moins ensemble jusqu'à un certain stade. Et puis, à cause des divers problèmes, ça se divise en orthodoxe et catholique romain. Mais avant, c'était tout ça était ensemble. Il y a, ça mijote les problèmes entre les deux côtés, mais c'est à une certaine époque que ça se divise. Je vais lire les premières parties. En 314, Sylvestre devient ou prétend être le chef de l'Église de Rome. Bon, est-ce qu'il était ou pas, c'est qui se disait chef de l'Église de Rome. En 440, donc on saute encore 150 ans, 440 à 461, il y a Léon le premier qui se dit être pape. Le pape. Il se dit être le pape, mais il n'arrive pas à couper les autres qui veulent s'appeler pape, parce que tous les pasteurs s'appellent pape à cette époque-là. Mais il essaie de restreindre l'utilisation de ce mot. 590 à 604, il y a Grégoire le Grand, Grégoire le Premier, qui devient en Occident le premier pape absolu. Donc plus d'évêques ou plus de pasteurs, plus d'anciens dans l'Occident ont le droit à s'appeler pape. Mais tous les pasteurs, tous les anciens, tous les évêques dans l'Orient, dans l'orthodoxie, continuent à s'appeler pape. Mais puisqu'il y a déjà cette plus en plus de, de division entre l'Est et l'Ouest, que ça devient très difficile à voyager si loin, eh bien, on n'a plus la communication. Et donc, eux, ils gardent leur tradition et l'Ouest, l'Occident, garde leur tradition. D'où vient cette idée de pape universel, tandis que c'est quand même pape local. En 869, il y a la séparation entre les catholiques romains et les catholiques orthodoxes. Donc ça, c'est la division. Maintenant, ce n'est plus le même, c'est divisé dans deux branches, deux traditions différentes. Et ce n'est pas ici, sur ce document, mais pas beaucoup plus tard, aux environs l'année 1000, les orthodoxes n'évoluent plus. Orthodoxie, c'est toujours comme c'était il y a 1300 ans, 1200 ans. Okay? Tandis que le catholicisme romain a continué à évoluer, plus en plus loin de la position orthodoxe. Alors, je n'ai pas révisé les chiffres, mais il y a, je pense, conciles œcuméniques au début du christianisme, le premier étant le concile de Nicée, qui était convoqué par l'empereur Constantin. Et de lui, a fait le premier, puis il y avait sept conciles écuméniques, tous les sept étant convoqués par l'empereur ou l'empératrice. Et puis, c'est que ces sept-là que l'orthodoxie respecte. Tandis que le catholicisme romain, ils ont eu en plus une autre vingtaine de conciles, comme le dernier étant, ou peut-être pas le dernier, mais avant-dernier, je ne sais plus, mais c'était le concile de c'est pas grave. C'était il y a 30 ans, 40 ans.
C'est le concile qu'ils ont appelé Vatican, non?
Voilà, le Vatican Council. Merci. Le concile du Vatican. Il n'y a pas très longtemps. Mais ça ne touche pas l'orthodoxie. L'orthodoxie ne bouge plus. C'est que le catholicisme qui a continué à ajouter des traditions. Donc, ils se sont plus en plus éloignés. Et c'est pour cela qu'en 1517, Luther a affiché ses 95 thèses contre l'Église de Rome en disant, mais où sommes-nous? On est tellement loin de la vérité. On va arrêter là avec cette pensée parce qu'on s'avance trop si je dis plus. Hein. Mais je vous donne les photocopies à lire. Et c'est simplement pour vous aider à comprendre. Hein, parce que nous, les baptistes, on ne se considère pas protestants. Il y a des raisons pour cela. Mais il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est la formation de l'Église catholique, comment ça s'est fait. Parce qu'au début, toutes les églises étaient des églises bibliques. Au début, c'était tous des églises de foi baptiste. Et pourtant, ils sont devenus catholiques, ils sont devenus orthodoxes, ils sont devenus toutes ces autres choses. Donc, si on ne reste pas sur la bonne voie, bon, on risque aussi à prendre les mêmes pas pour arriver à la même endroit que tous ces autres groupes. OK? OK. Voilà, ce sera pour la prochaine fois.